France Musique. Musicopolis. Borodine, 1887. Saint-Pétersbourg. À l'instant de sa mort, le 15 février 1887, nul doute que pendant cette seconde d'éternité, Borodine revoit tous les êtres chers qui ont compté pour lui. Sa femme, ses filles adoptives, ses chers élèves, ses collègues de l'Académie de médecine et de chirurgie, ses amis compositeurs, et certainement aussi un musicien qu'il n'a pourtant rencontré qu'à trois reprises, Franz Liszt. En juin 1877, Borodine se rend à Iéna lors d'un voyage scientifique pour accompagner des étudiants. C'est à une trentaine de kilomètres à peine de Weimar, où Liszt est maître de chapelle. Et il y a un service régulier de train. Au bout de quelques jours, le timide Alexandre Porfirievitch prend son courage à deux mains et un billet de train. Il va sonner chez Liszt. Il raconte sa visite par le menu à sa femme. À peine avais-je donné ma carte de visite que je vis apparaître devant moi dans l'entrée une haute silhouette vêtue d'une longue redingote noire avec un long nez et de longs cheveux blancs. « Vous avez fait une belle symphonie !» s'écria la silhouette d'une voix puissante en me tendant sa longue main. « Soyez le bienvenu. Je suis ravie. Il n'y a que deux jours que je l'ai joué chez le grand-duc qui en est charmé. La première partie est excellente. Votre andante est un chef-d'œuvre. Le scherzo est ravissant. Et puis ça, c'est ingénieux. » Et les longs doigts se mirent à picorer, suivant la pittoresque expression que Moussorgski employait pour désigner les marches de larges intervalles dans le scherzo et le final de ma première symphonie. Borodine poursuit le récit de sa visite à Liszt, qui s'est mise au piano pour jouer des extraits de sa symphonie. « Il allait et il allait toujours. Sa main vigoureuse serra la mienne et me cloua sur un canapé où il ne me resta plus qu'à approuver de la tête et à me confondre en remerciements. La grande figure du vieillard, avec ses traits énergiques et pleins de vivacité, se dressait devant moi et ne cessait de parler, m'accablant de questions, passant tour à tour de la langue française à la langue allemande et vice-versa. Comme je dis à Liszt que je n'étais qu'un Sonntagmusiker, un musicien du dimanche, il me répondit avec beaucoup d'à-propos « Aber Sonntag ist immer ein Feiertag, mais le dimanche est toujours un jour de fête et vous avez pleinement le droit d'officier. » Liszt interroge Borodine sur ce qu'il pense lui-même de sa musique et ce qu'en pensent les autres. Borodine répond « Je lui dis que je me reconnaissais moi-même beaucoup de défauts, qu'on me reprochait souvent mon inexpérience, puis de moduler à l'excès, de dépasser toute mesure, etc. » Liszt ne cessait de m'interrompre. « Dieu vous en garde, n'y touchez pas, n'y changez rien. Vos modulations ne sont ni outrées, ni fautives. Vous êtes en effet allé très loin, et c'est précisément votre mérite. Mais vous n'avez jamais commis de faute. » N'écoutez pas ceux qui veulent vous retenir. Je vous en prie, croyez-moi, vous êtes dans le vrai chemin. Votre instinct artistique est tel que vous ne devez pas craindre d'être original. Rappelez-vous que les mêmes conseils ont été donnés en leur temps à Beethoven, Mozart, etc. S'ils les avaient suivis, ils ne seraient jamais devenus des maîtres. Thank you. Borodine aura l'occasion de rencontrer Liszt lors de 3 séjours à Weimar ou à Iéna. À chaque fois, il fait son maximum pour passer du temps avec le maître, l'écouter, donner des leçons, jouer, diriger, accompagner, donner son opinion sur la musique, celle des Russes qu'il trouve pleine de charme et d'invention, celle des Allemands qu'il trouve plate. Lorsqu'il lui fait un compliment sur ses œuvres, Liszt prend toujours soin de lui faire remarquer qu'il ne le flatte pas et qu'à son âge, il ne fait plus que dire la vérité, raison pour laquelle il n'est pas très aimé à Weimar. Pour Borodine, c'est une expérience magnifique. Il termine sa lettre à sa femme par ces mots. Mais assez de bavardage, tout cela s'efface déjà comme un rêve. On dirait le Venusberg du Tannhäuser, où le rôle de Vénus serait rempli par Liszt. Jusqu'à présent, je suis dans l'enchantement. L'approbation de Liszt est certainement un élément très important dans la popularité de Borodine et des Russes en Europe de l'Ouest. Liszt, qui défend toutes les musiques modernes, de Wagner à Saint-Saëns, fait toujours tout ce qu'il faut pour faire jouer les jeunes ou moins jeunes musiciens qui en ont besoin. Notons que Borodine a été aidé aussi par le soutien de mécènes, en Russie et à l'étranger. En Russie, c'est l'industriel et mélomane Mitrofan Belaïev qui organise des réunions musicales à partir de 1882. Les musiciens se réunissent les vendredis pour des séances de musique de chambre pour lesquelles ils écrivent un certain nombre d'œuvres. Parfois même des œuvres communes, comme le quatuor B-La-F, composé par Rimsky-Korsakov, Liadov et Glazounov. Le troisième mouvement est échu à Borodine. Avec les lettres du nom B-La-F, les musiciens construisent un motif musical en mélangeant la notation allemande et la notation latine. B est le si bémol, La le la et F le fa. Un motif que Borodine traite sous forme de Serenata alla Spagnola.
Thank you.
autre mécène a joué un rôle très important à la toute fin de la vie de Borodine, la comtesse de Mercy-Argentot. Cette aristocrate très musicienne, amie de Liszt, s'est attachée à défendre tout spécialement la musique russe en France et en Belgique. Elle a été la marraine de Borodine en compagnie de Saint-Saëns pour son admission en France à la Société des auteurs. Et surtout, elle a organisé de nombreuses manifestations, notamment en Belgique, pour faire entendre sa musique. Le chef d'orchestre Théodore Jadoul l'a décrite ainsi à Borodine. La comtesse de Mercy-Argentot est une des femmes les plus accomplies qu'on puisse rêver. C'est une musicienne de premier ordre. Elle adore votre musique et elle remue ciel et terre pour la faire connaître l'hiver prochain à Paris. Borodine va dédier à la comtesse une petite suite pour le piano. La première pièce est un tempo di menuetto intitulé Intermezzo. Pour ses amis, ses collègues, ses élèves, sa famille, Borodine est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Toujours disponible, toujours prêt à se mettre en quatre pour tout le monde, toujours généreux et prêt à comprendre chacun. Alors que le groupe des cinq s'était formé dans les années 1860, il y a une sorte de dislocation dans les années 70, surtout en raison du retrait de Balakirev. Borodine trouve le moyen de défendre le groupe. « Il est évident, écrit-il, qu'il n'y a pas entre nous de rivalité, de questions personnelles et qu'il ne peut y en avoir, à cause même du respect que nous avons les uns pour les autres. Aussi longtemps que nous étions des œufs couvés par une même poule, cette poule c'est Balakirev, nous étions tous plus ou moins semblables. Mais quand les jeunes poussins sont sortis de leur coquille, chacun s'est paré de plumes différentes. Et quand leurs ailes ont été formées, chacun a pris son vol dans une autre direction. Si l'on nous croit pour cela séparés de Balakirev, il n'en est heureusement rien. Nous l'aimons tous comme auparavant et n'épargnons rien pour entretenir avec lui les mêmes relations qu'autrefois. Il s'est mis à achever Tamara, Dieu le veuille. » Thank you. 1877, le bon Borodine, toujours prompt à se féliciter de ce qui arrive à ses amis, écrit à une correspondante. Vous ne savez sans doute pas une nouvelle très agréable et très réjouissante. Balakirev, l'aimable Balakirev, est revenu à la musique. Il est toujours resté le même Mili Alexeyevitch, défendant avec ardeur les dièses et les bémols et les plus petits détails d'une composition dont il ne voulait pas entendre parler autrefois. Il assiège de nouveau Korsakov de ses lettres au sujet de l'école gratuite, prend le plus vif intérêt à la composition des programmes de concerts, travaille à sa Tamara, achève l'arrangement à quatre mains du Harold en Italie de Berlioz sur la commande d'un éditeur parisien. Bref, il est ressuscité. Les membres du groupe des cinq composent, mais Borodine manque de loisirs à cause de son métier de chimiste et professeur. Rimsky-Korsakov raconte dans ses mémoires comme il essaye de pousser son ami à consacrer plus de temps à la composition. « Alors, Alexandre Porfirievitch, avez-vous écrit ?»« Oui, j'ai écrit. » Et il s'avérait qu'il avait écrit une pile de lettres d'affaires. « Et avez-vous transposé les danses polovtiennes ?»« Je les ai transposées. » »« Ah, grâce à Dieu, enfin !» Oui, elles étaient sur le piano et je les ai transposées sur la table. Borodine plaisante, mais il éprouve aussi un peu de mélancolie. Nous, les vieux pêcheurs, écrit-il, nous sommes comme toujours entraînés dans le tourbillon de la vie, de la profession, de l'étude, de la science, de l'art. On se presse toujours et l'on n'arrive nulle part. Le temps vole comme une locomotive à toute vapeur. Cependant, la barbe grisonne, les rides se creusent. On commence 100 choses différentes. Parviendra-t-on à en finir quelques-unes ? Je suis toujours poète dans l'âme. Je nourris l'espoir de conduire mon opéra jusqu'à sa dernière mesure. Mais je dois souvent me moquer de moi-même. J'avance lentement et à de grands intervalles. Les danses polovtiennes avec chœur au premier acte de Prince Igor d'Alexandre Borodine. Le chœur et l'orchestre du Kirov de Saint-Pétersbourg dirigé par Valéry Gariev. Tout le programme, la réécoute et le podcast de cette émission sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Nous étions aujourd'hui avec Olivier Dupré, Marie-Christine Ferdinand et Claire Lagarde.
À réécouter sur francemusique.fr.